Bonjour. Eh bien, on va commencer avec, pour le moment, un absent, mais sans doute va-t-il nous rejoindre. Et s'il ne nous rejoint pas, tant pis pour lui. Hein ? Alors, quand le roman se souvient d'autres cultures, on pourrait presque dire, avec les auteurs qui sont ici, c'est plutôt quand la fantaisie se souvient d'autres cultures. Alors, à ma droite, il y a Peter V. Brett, écrivain américain, auteur de « L'homme rune » et « La lance du désert », qui sont... de romans qui s'inscrivent dans un cycle, le cycle des démons, et qui vient de sortir aussi lors de Braham, chez le même éditeur Bragelonne, qui est un peu un making-of avec une nouvelle en plus de son œuvre. Alors, de quoi il s'agit? C'est un monde où des démons voraces engloutissent les âmes des êtres vivants pendant la nuit, et donc tout le monde se terre chez soi. Et il y a un jeune gars qui s'appelle Arlen qui en a marre d'avoir peur et décide de trouver un moyen de combattre ces êtres maléfiques. Et la saga commence là. C'est lui qui va devenir l'homme rune et c'est lui qui va combattre après un de ses amis dans la lance du désert. À l'extrême gauche, Christine Cardo, française, et qui a publié l'année passée son premier roman, Le Roi d'Ébène, chez Mnemos. Et Le Roi d'Ébène, c'est une histoire d'une jeune femme qu'on appelle Loratel et à qui on va lui confier une mission assez étrange, assez mystérieuse et qui va l'entraîner dans des péripéties très amusantes, passionnantes. Et Marianne Lecomte, à ma gauche, qui est une anthologiste d'abord, une éditrice ensuite et une écrivaine en même temps. L'anthologiste a travaillé depuis les années 70 en faisant des bouquins sur les femmes au futur, en rassemblant des nouvelles de Theodore Sturgeon, etc. Éditrice en particulier de fantasy, de science-fiction, et puis écrivaine maintenant avec plusieurs romans, mais je vais citer les deux derniers, Le Temple de Dragon chez Mango, je crois, Le Temple du Dragon chez Mango en 2008, et puis Le Manuscrit de Grenade cette année-ci chez Pygmalion. Le Manuscrit de Grenade, c'est une fantaisie autour de trois jeunes femmes, Myrine, Isabeau et Yasmine. Gilles Voideville, je ne vais pas le présenter puisqu'il n'est pas là. Alors, je voudrais d'abord demander à poser la première question à Marianne. Le Manuscrit de Grenade... La référence à d'autres cultures est explicite. Ça se passe en 1491 en Andalousie, sous le règne des rois catholiques, où il ne fait bon ni être musulman, ni être juif. Et les héroïnes sont justement une juive, Myrine, qui est un peu magicienne, une catho, Isabeau, qui, elle, veut échapper au couvent où son père veut la coincer, et Yasmine, une musulmane, évidemment. Alors, pourquoi avoir choisi cette époque et ce lieu?
Alors, j'ai été très, très tôt, en particulier, en fait, dès mes années de lycée, très perturbé par les guerres de religion. Et par la Saint-Barthélemy, et je pense que tous les gamins, quand ils commencent à arriver à cette époque de l'histoire, comprennent mal que des gens puissent s'entretuer au nom de Dieu. Et je n'y ai pas pensé pendant des années, puis ça a fait son chemin certainement. Et puis récemment, il m'est apparu il y a à peu près 2 ans qu'on était de nouveau en pleine guerre de religion, même si on n'appelait pas ça comme ça. Et que tous les extrémismes se réveillaient et qu'on était à une époque charnière où de nouveau une époque religieuse avec tout ce que ça peut entraîner quand les gens sont quelque part intolérants. Et j'avais envie de parler de ça et en même temps, bon, mon univers c'est la fantasy où je me sens bien, hein, et en même temps j'avais pas envie d'en parler dans le présent et de faire un roman là-dessus en ce moment, en plus pour ne pas choquer ou ne pas risquer de dire des choses qui seraient incomprises. Or, il était beaucoup plus simple, au fond, d'utiliser la fantaisie, d'utiliser le passé, d'utiliser... Et j'ai cherché le lieu. Et j'étais, il y a 2 ans, en visite en Andalousie à Grenade. J'arrive à Grenade, dans ce palais de l'Alhambra, extraordinaire. J'étais passé à Rérès avant, dans un château, l'Alcazar de Rérès, où il y avait une petite chapelle absolument toute simple, magnifique. qui était une ancienne mosquée et que les rois catholiques, en prenant Rérès, avaient transformée en chapelle pour la Vierge Marie, pour la remercier de les avoir aidés à reprendre Rérès. Et là, je me suis dit, mais c'est là que ça doit se faire, parce que quelque part, c'est le miroir inversé de notre époque. C'était aussi des guerres de religion. Je vais pouvoir parler de ce qui me tient à cœur, tout en faisant un roman d'aventure, une quête initiatique, et en parlant d'une autre époque. Et je pense que les lecteurs feront le lien tout seuls. Enfin, j'espère.
Peter, dans le deuxième tome de votre cycle des démons, donc La Lance du désert, Arlène combat un de ses anciens amis qui l'a trahi, et ça se passe dans le désert. Et les éléments de la civilisation de ce désert nous font immanquablement penser à une civilisation musulmane. Avec un code même qui ressemble un peu au Coran, à la charia, pardon. Donc, est-ce que c'est ça que vous avez voulu faire? Est-ce que ce sont ces éléments-là que vous avez choisis et pourquoi?
What I wanted to do was show how two different cultures that don't understand each other can come into conflict without meaning to.
Ce que je voulais faire, c'était montrer comment deux cultures différentes qui ne se connaissent pas pouvaient entrer en conflit sans vouloir à la base entrer en conflit.
When creating the Croatian culture, I did include a lot of elements that add a flavor of the Muslim culture, Arab culture, from medieval times, not from modern times.
Quand j'ai créé la culture des Craziens, justement cette culture des déserts, j'ai ajouté beaucoup d'éléments qui peuvent faire penser aux musulmans, mais aux musulmans du passé, pas d'aujourd'hui.
But it's also important to note that many other cultures, I chose features from many other cultures to include in this group.
Mais il est aussi important de savoir que j'ai choisi beaucoup d'autres traits d'autres cultures pour créer cette civilisation là.
The basic political and cultural system of the Croatian culture is actually taken from medieval Japan.
En fait, le système de base politique et culturel des Craziens vient du you said medieval Japan.
Yes.
Du Japon du Moyen Âge, du Japon médiéval.
The Sharam warriors, who are the height of society, are have much more in common with samurai than they do anything in Muslim culture.
Les Sharam. Les guerriers Sharum de cette culture ont beaucoup plus de points communs avec les samouraïs, en fait, qu'avec un élément musulman.
Their training rituals and fighting styles have more in common with the Greek hoplites, particularly the Spartan warriors.
Leur rituel d'entraînement et leur technique de combat ont beaucoup plus en commun in common with
the Greek hoplites. Ancient Greek warriors.
Les hoplites. Ah oui, et ça a beaucoup plus en commun donc avec les hoplites grecs. Andy.
specifically the warriors of Sparta.
Ah oui, et en particulier les guerriers Sparte.
And so I was also inspired by Shaka Zulu's conquest of Africa. Many other cultures were brought into this.
Donc j'ai été aussi très inspiré par la conquête de l'Afrique de. What did you say?
Shaka Zulu. He conquered Africa.
Qui a conquis sa conquête de l'Afrique, et j'ai ajouté comme ça beaucoup d'éléments de cultures différentes.
And for instance, the Church of Bones, where they all worship, there are several different examples of these in different cultures throughout the world.
Par exemple, le temple des os, l'église couverte d'os, tapissée d'os, qu'ils ont dans cette culture-là, la culture des Craziens, il y a beaucoup d'exemples différents qui existent, de temples identiques qui existent dans le monde.
So the intention in doing this was to create a culture that was vastly different from the very Western culture that was the setting of the first book.
Et donc, mon intention était de créer une culture largement différente de la culture de l'Ouest que l'on connaissait dans le premier bouquin.
Both of these cultures are at war with the demons. Both of these cultures believe that they have a savior. Both of these cultures are trying to save the world.
Toutes ces deux cultures luttent contre les démons. Ces deux cultures croient qu'elles ont un libérateur. Ces deux cultures sont en guerre contre les démons.
But they're doing it in such vastly different ways that they can't work in sync, even though they're trying to achieve the same goal.
Mais ils le font, ils combattent les démons de façon tellement différente qu'ils sont incapables de travailler ensemble.
So that was the real story that I wanted to tell and show that when cultures are so different that they don't understand one another, they tend to demonize one another.
Et c'est ça que je voulais montrer. Je voulais montrer que deux cultures, quand elles sont tellement différentes l'une de l'autre, elles tendent à se démoniser l'une l'autre, en fait.
And so there's one important phrase in the book where Arlen and Jardir, the two representatives of each culture, are having a conversation after they've had a quarrel and they're trying to reconcile.
Donc il y a une phrase très importante dans le livre où Arlen et Jardir, qui sont les deux héros des deux cultures opposées, ont une discussion après avoir eu une dispute.
And Jardir says to him, "Our cultures are a natural insult to one another."
Et Jardir dit à Arlen, nos deux cultures s'insultent mutuellement, naturellement, de façon naturelle.
And we must tread very carefully to avoid conflict.
Et on doit se montrer très très prudent afin d'éviter des conflits.
And so I think that more than anything was the statement that I wanted to make.
Et je pense que ceci plus que toute autre chose était le point que je voulais atteindre dans mon livre.
Christine Cardo, le roi d'Ébène se passe dans le pays d'Arasani. Ça fait un peu penser à l'Abyssinie, à l'Égypte nubienne, etc.
Ouais.
Quelle est votre source d'inspiration ?
Alors plutôt que de vous énumérer tout ce qui m'intéresse, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un ami qui est au Togo, donc Afrique de l'Ouest, qui possède une ferme de reptiles et qui intervient auprès de la population quand ils se retrouvent confrontés à des animaux autres que nos chiens et nos chats, genre des crocodiles qui trouvent bien plus fun d'aller dans une piscine s'installer, c'est très, bien mieux que le marigot, et à l'hôtel ça passe pas trop, quoi. Donc il était appelé pour intervenir pour tuer un buffle qui était blessé et qui terrorisait un village au fin fond de la brousse. Il avait déjà tué deux paysans qui allaient au champ, il avait complètement massacré un troisième et il avait attaqué une jeune fille qui allait puiser à l'eau. Il fallait absolument l'abattre. Il n'est pas trop fan de ce genre de choses, mais il fallait intervenir. La police lui a demandé son aide, il y va. Donc il part avec un pisteur, un porteur, et il s'en va dans la brousse. Il marche quelques heures et dans la réflexion, il se souvient que les anciens disent qu'un buffle, quand il va mourir, il se couche près d'une termitière parce qu'elle abritera son âme. Et au bout de 7 heures de marche, au moment même où il pense à ça, le buffle apparaît. Il le fixe, il fait comme on imagine avec un taureau, il gratte la terre, baisse la tête, fonce dessus, et mon ami, par réflexe, tire en pleine tête. Et là, l'animal encaisse le choc, vacille un peu, mais se sauve. Et le porteur et le pisteur sont terrorisés. Ce buffle-là, il n'est pas normal, il est pris par un mauvais esprit. Il est immortel, on y va plus, quoi, on arrête. Donc il passe du temps à les convaincre de continuer. Il marche 7 bonnes heures. Et Eric a l'habitude, il se dit, le premier endroit où on va être à découvert, il va nous charger. Parce que le buffle, contrairement à ce qu'on peut imaginer, est un animal très rusé et très très dangereux dans la brousse. C'est vraiment un des plus qu'il faut se méfier. Je ne sais pas si dans les safaris on montre les buffles d'ailleurs. Je ne suis pas convaincue. Et donc, comme il l'avait pressenti, il se retrouve face au buffle et le buffle... Il a l'impression que le buffle ne regarde que lui, parce que c'est lui qui a la carabine, va savoir. Et l'animal baisse la tête, gratte le sol, et au lieu de foncer dessus, se sauve. Alors les deux pisteurs et porteurs sont encore plus terrorisés, parce que c'est un comportement qui est absolument anormal. Mais Eric est très rassuré, parce qu'il a eu le temps de voir la bête, et en fait c'est une très très vieille bête, qui est très maligne, hein, qui a eu de l'expérience, et qui sait très bien que le terrain n'est pas favorable pour foncer sur Eric. Mais il sait très bien qu'il va marcher encore et que la prochaine fois, il ne va pas louper l'occasion. Donc il est encore plus prudent. Et fait 20 minutes après, le buffle arrive et il charge, alors qu'il ne l'a pas vu arriver. Et donc Eric a le temps quand même de viser, puisqu'il était très près, et il le tue en plein cœur. Donc en pleine course, l'animal tombe à quelques mètres de lui, tout contre une termitière. Et donc, il voit l'animal qui est immense. Il fait 800 kilos. Il y a très très peu de buffles, donc il est très vieux. Donc par respect pour la bête, qui est un peu extraordinaire, il décide de ne pas la découper. On va chercher un pick-up, on va chercher du monde, donc on va la laisser là. On va la couvrir de feuilles, on viendra la rechercher. Et il est furieux parce qu'il surprend son pisteur avec un couteau. Il a coupé la queue du buffle. Et le pisteur se met devant lui, très très sûr de lui, et lui dit « Mais on ne peut pas partir comme ça. Il n'est pas mort. L'esprit, le mauvais esprit, il est là. Si on s'en va, il va être parti. Quand on reviendra, il ne sera plus là. Il faut lui couper la queue. Comme ça, il ne bougera pas. Il sera tellement ridicule face aux autres animaux qu'il restera là. Et je suppose qu'il devait être très ridicule puisqu'il est resté là. Et en fait, c'est ça qui me plaît. C'est ce mélange de société où on le tire quand même à carabine, on va aller chercher un pick-up, donc c'est pas... ils ne sont pas perdus. Mais on a quand même cette croyance-là de... On va quand même lui couper la queue parce qu'on ne sait jamais, quoi. C'est... Et ça, j'adore ça. Et le roi d'ébène, c'est ça. C'est une nana qui est impliquée dans un conflit politique énorme. Enfin, elle sent bien. Mais il y a cette part de magie comme ça. Comme là, quand le buffle tombe contre la termitière, c'est trop... voilà. Tu dis, bon, ils sont gentils, ils sont quand même un petit peu peureux. Puis là, tu dis, bon, bah, quand même, on va quand même lui couper la queue, c'est quand même plus sûr, quoi. Ce serait dommage de passer à côté. Voilà, c'est ça qui me plaît. Mon inspiration, elle vient de là. Elle vient des gens. La terre que j'imagine d'Arasani, ce serait l'Afrique d'il y a 2700 ans. Quand le Sahara n'est pas encore, c'est encore un Sahara vert avec des prairies, avec le Sahara n'a pas toujours été un désert comme ça. J'ai un désert, mais il ne contraint pas les animaux. Aujourd'hui, les animaux, enfin, on sait que les animaux ont été contraints en Afrique parce qu'ils ne pouvaient plus passer le désert. Mais il y a 2700 ans, il y avait des lacs, il y avait des prairies, c'était pas du tout comme on le connaît aujourd'hui. Mon Afrique à moi n'a rien à voir avec l'Afrique d'aujourd'hui. Ce sont les gens qui sont restés pareils. Donc j'ai vu, je pourrais même vous citer toutes les sorcelleries en cas de Coupe du Monde de foot, il y aurait de quoi faire. Hein. Voilà, il y a tout ça qui... Et ça, ça me plaît bien. Ce mélange-là me plaît vraiment bien.
Marianne si... aussi, l'Afrique, ça vous a beaucoup passionné parce que vous avez passé votre enfance là.
Oui, moi, ça me parle vraiment ce que vous êtes en train de dire parce que j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence en Afrique noire.
Quelle chance.
Et donc, je vis là-dedans depuis toute petite. Et... Il y a tellement de signes de ce genre. Quand on vit en Afrique, on est confronté à ce genre d'histoire tous les jours. Et des histoires absolument incroyables. Je me souviens qu'un jour, un ami de mon père en brousse à Madagascar dormait dans sa case. À un moment donné, et puis les gens avaient dit surtout vous fermez bien votre porte, vous faites ci, vous faites ça, vous faites un. Parce que ici, il y a des serpents très 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 dangereux, qui ne sont pas des vrais serpents, qui sont des esprits, vous faites attention et tout. Le copain de mon père s'endort, bon, il venait d'arriver à Madagascar en 1948, de France, il n'y croyait pas encore trop. Il disait tout ça, c'est des histoires qu'on me raconte, etc. Et dans la nuit, toc, toc, toc. Il se lève complètement endormi, il va voir si c'est son porteur, si c'est qui appelle. Il ouvre la porte et devant ses yeux, il y avait une sorte de serpent comme un aja, avec la tête comme ça, qui faisait toc, 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 et qui était à sa hauteur. Et il a eu tellement peur qu'il s'est reculé, puis le serpent est parti. Mais voilà. Et des histoires comme ça, quelquefois... Mes amis qui me connaissent bien me disent « Mais Marianne, arrête de raconter des histoires de fantasy. » Écris ta jeunesse.
Oui, c'est pas mal, finalement.
Peter, le titre de cette conférence, c'est Quand le roman se souvient d'autres cultures. Mais est-ce que c'est un souvenir dans votre cas ou au contraire, c'est un ressourcement? C'est-à-dire que vous allez puiser là quelque chose qui va, non pas un peu enjoliver votre fiction, mais qui va la créer.
I would say that it's the latter.
Je dirais la deuxième.
I took pieces of our own real history to create a culture that was believable.
J'ai pris des morceaux de notre histoire à nous pour créer une culture qui soit crédible.
But I found that when I combined these elements, the new culture that rose out of that was alive in its own way.
Mais j'ai découvert qu'en combinant ces éléments, la culture qui en émergeait avait une vie propre, avait sa vie propre à elle.
So as the series has progressed, I think less and less about taking things from real cultures because I've created a culture that's so vibrant that it's growing on its own now.
Et donc à mesure que la série progresse, je pense de moins en moins à prendre des éléments d'autres cultures parce que la culture elle-même que j'ai créée est tellement vibrante et tellement vivante qu'elle grandit d'elle-même.
And I think that this is what a lot of fantasy authors do is you try to create a world that's not our world but that is believable in and of itself.
Et je crois que c'est ce qu'essaient de faire beaucoup d'auteurs de fantasy, c'est-à-dire que vous essayez de créer un monde qui n'est pas notre monde, mais qui est tout de même crédible en lui-même.
The magic plays a very small role, at least very early on in the series.
la magie n'a qu'un rôle assez mineur, du moins au tout début de la série.
Because I wanted the interactions between people to be believable.
Parce que je voulais que les interactions entre les gens soient crédibles.
And have that be the focus of the story and not the fantastical elements.
Et je voulais que ça ce soit le point central de l'histoire et pas les éléments fantastiques.
Christine, en fin de compte, ce ressourcement, cet appel à d'autres cultures, est-ce que ça vous donne une liberté extraordinaire en tant qu'écrivain, ou au contraire, ça vous enferme dans un carcan qu'il faut respecter?
Je me sens très libre de toute façon. Je ferai ce que je veux. Si je veux faire des girafes avec une tête de rhinocéros, je le ferai. J'ai pas du tout. Non, au contraire, c'est. Enfin, c'est à l'image du pays que j'imagine aussi, quoi. C'est, les animaux sont libres, ils vont où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on les massacre, alors à la limite qu'on me massacre, hein, c'est pas grave. Non, je me sens plutôt libre, en fait. Et comme disait Peter, on a son monde, alors après, on fait ce qu'on veut dedans, et il grandit par lui-même, et à la limite, il y a des fois, il nous échappe, quoi. Les choses arrivent comme ça, et ça s'impose de nous-mêmes, et c'est ça qui est bien, en fait. Le plaisir de l'écrire... Excusez-moi. Le plaisir de l'écrire, c'est qu'on rentre dans notre magie, ça devient magique pour nous. Et moi, j'ai adoré écrire ce bouquin parce que j'ai pris du plaisir à rêver. Et c'est ça que j'espère que j'aurai dans la suite, c'est de rêver dans son monde à soi et de le laisser exister par lui-même, quoi.
Et vous, Peter, est-ce que vous avez fait référence à des tas d'autres cultures qui créent, en fin de compte, une culture propre, et ça vous enferme quelque part, ou bien est-ce que vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça?
Well, when you're writing a series of books, with each book you write, you have to be respectful to the ones that go before.
Donc évidemment, quand vous écrivez une série, à chaque livre, vous devez respecter le livre qui précédait.
So when I establish certain cultural things, overall, I have to adhere to them going forward.
Yeah, you'd have to what?
Adhere, stick to.
Oui. Mais donc évidemment, quand j'ajoutais des éléments culturels, il fallait que je m'y tienne, il fallait que j'y colle pendant les bouquins suivants.
However, as we know, every culture has people who go against what the norm of society is.
Mais évidemment, comme nous le savons, dans chaque culture, il y a des gens qui vont contre les normes de la société.
So I don't have to feel constricted by certain cultural elements because there are always people within a population who will behave differently.
Donc je me sens pas vraiment enfermé par ces éléments culturels parce que de toute façon il y aura toujours des gens dans une culture qui vont se comporter différemment.
For example, in the Desert Spear, I create a warrior culture where the strong are the highest level of the culture.
Et par exemple dans la Lance du Désert, j'ai créé une culture où les hommes les plus puissants sont les guerriers, c'est la classe supérieure de la société.
So in the next book, The Daylight War, that I'm working on, one of the main characters is a cripple.
Et donc dans le prochain livre sur lequel je travaille, La Guerre diurne, un des héros est un handicapé.
He's considered untouchable, the lowest level of society.
Il est considéré comme un intouchable, c'est le niveau le plus bas de la société.
But in some ways that frees him to behave in ways that the other people cannot.
Mais d'une certaine façon, du coup, ça lui donne la liberté de se comporter d'une façon que les autres personnes ne peuvent pas se permettre.
So once you've created a fictional culture, you can also start creating the countercultures within it.
Et donc, une fois que vous avez créé une culture de fiction, vous pouvez aussi commencer à créer la contre-culture qui va à l'encontre.
And in that way, you can never really get tired of it or feel constricted.
Et donc, comme ça, vous pouvez, ça vous permet de ne jamais être fatigué de ce que vous avez fait ou jamais vous sentir prisonnier.
Marianne, elle est quand même un peu plus prisonnière d'une époque puisqu'elle situe son roman en 1491. Il ne faut pas faire de gaffe, là. Donc, il faut respecter quelque chose, ce que Peter ne doit pas faire puisqu'il emprunte à d'autres choses pour créer quelque chose de nouveau. Vous empruntez à l'histoire.
Oui. Moi, j'ai toujours eu une passion pour l'histoire avec un grand H, que ce soit l'histoire... notre histoire du passé, l'histoire de l'humanité, l'histoire de d'autres civilisations, et puis bien évidemment l'histoire du futur qui est la science-fiction, c'est-à-dire ce qui nous attend. Donc l'histoire pour moi c'est sans doute mon thème de base. Et à partir de là, J'essaie d'être la plus rigoureuse possible quand je décris une époque. Alors, par exemple, dans mon petit roman qui se passe en Chine vers le XIe siècle, je n'ai pas été fidèle sur le plan historique, j'ai été fidèle sur le plan de l'âme et de la pensée chinoise. Là, tout est, je veux dire, j'ai 30 ans d'études de la Chine derrière moi et d'études de livres, de romans chinois et de contes chinois, et c'est fidèle vraiment à l'âme de la Chine. En revanche, dans le manuscrit de Grenade, c'est une époque précise, 1491, fin 1491, juste avant la chute de Grenade, et là, j'ai mis un an de recherche, de livres extrêmement sérieux où je faisais des petites fiches pour m'y retrouver, etc. Mais ces fiches existent et c'est quand je suis confrontée dans le cours de l'histoire à quelque chose de particulier que j'en sors une et que je regarde. Par exemple, j'ai passé une heure et demie avec un monsieur qui habite le nord de l'Espagne et qui est spécialiste des mules espagnoles. Il faut savoir qu'à l'époque, la mule espagnole, le pur sang tel qu'on le connaît maintenant n'existait pas, c'était des petits chevaux arabes. Donc à l'époque des rois catholiques, que ce soit les arabes ou les catholiques, la mule espagnole était la bête de référence. Elle était plus puissante, elle était très belle, elle pouvait galoper sur beaucoup plus de kilomètres qu'un cheval, elle pouvait porter des charges. Une heure et demie au téléphone avec un monsieur dans le nord de l'Espagne qui parlait parfaitement français et qui élève encore des mules espagnoles. Ça, je l'ai mis, et je m'en suis servi pour savoir combien de kilomètres mes héroïnes pouvaient faire à cheval en s'enfuyant. Donc des détails comme ça, je fais toujours très très attention à tous les détails. En revanche, il y a des détails que je n'ai jamais trouvés. Par exemple, la rouelle, ce qui était un cercle rouge ou jaune que devaient porter les Juifs pendant l'inquisition espagnole en Espagne, je n'ai jamais trouvé la réponse. Selon les romans anciens, c'était l'un ou l'autre. J'ai pas su trouver la bonne personne pour me répondre. Et là, j'en ai parlé à une de mes amies qui est écrivain, Mayane Fazi, qui m'a dit « Mais écoute, te complique pas la vie, fais une uchronie. » Et là, brusquement, quelque chose s'est ouvert et une liberté s'est installée où je pouvais, quelque part, me sentir libre ça a ouvert le livre sur autre chose. Et ça m'a apporté quelque chose de très, très, très important. Et j'ai pu décider de certaines choses. C'est là que j'ai décidé de faire que Torquemada, grand inquisiteur espagnol, le plus grand, devienne pape. Ça m'allait bien dans cette espèce de contexte sur les guerres de religion. Et puis beaucoup d'autres choses comme ça. Donc l'Uchronie m'a permis de sortir d'une contrainte historique un peu trop forte, d'une certaine façon.
Malgré tout votre courage d'avoir rassemblé toute la documentation, vous avez avoué que vous avez quand même fait une erreur. Racontez-la.
Oui, oui. Le gag, c'est que j'avais étudié tout ce que les gens mangeaient à l'époque, que ce soit dans les banquets, qui avaient lieu deux fois par an quand quelqu'un mourait ou quand quelqu'un naissait. J'avais vraiment étudié ce qui se vendait sur les marchés. J'avais été voir des tableaux, des natures mortes avec tous les légumes de l'époque, des tableaux du 15e siècle. Enfin, j'avais fait un boulot d'enfer. Et en relisant mon deuxième G, je me dis, alors quand même, là, c'est un peu triste, ça manque de couleur, ce qu'ils mangeaient de ça. Et j'ai mis une tomate qui n'arrive en France qu'en 1492. Après, je me suis dit, bon, c'est une uchronie, voilà.
Christine, vous vous sentez totalement libre dans ce que vous écrivez ou vous avez quand même des référencements que vous devez respecter?
Non. Je me sens vraiment libre. J'ai beaucoup, beaucoup regardé. Je regarde encore beaucoup de reportages. D'ailleurs, mon mari ne déteste maintenant le gnou. Il ne faut plus lui parler de lion, de machin. Il n'en veut plus. Mais je me sens libre. Je pense que je prends les choses inconsciemment. Je dois les savoir, je dois les sentir. C'est l'esprit, moi, qui m'intéresse plus qu'autre chose. Donc, je dois savoir beaucoup de choses sans m'en rendre compte. J'écris. Ça doit couler tout seul. C'est du rêve. J'ai commencé le livre à la suite d'un rêve. J'ai rêvé d'Elpha. Qui n'était pas encore Elpha, c'était juste un beau grand black avec une corne en or, voilà. Et la dernière scène où des personnages se glissent dans la barque qui aurait pu être le Nil, par exemple. C'est, voilà, j'ai vraiment fait ça comme ça et mon plaisir, je ne me mets pas de contraintes. Alors après, peut-être que j'en ai, mais que je ne m'en rends pas compte. Peut-être que je suis un chemin, mais je ne veux même pas m'y intéresser. Je veux garder le plaisir pur de mon petit délire à moi, où on me demande, mais qu'est-ce que tu as fumé quand tu as passé la tondeuse? Voilà, je veux ça. Je veux garder ce plaisir-là. Alors après, peut-être que je respecte des codes, mais que je ne le sais pas.
Peter, Vos références pour la lance du désert à l'islam du Moyen-Âge, au Japon du Moyen-Âge, à Sparte, etc., est-ce que ça dénote une grande culture ou un manque d'imagination ?
That's for the readers to decide.
C'est au lecteur de décider. Bon.
I think that the culture that came out of it is not any of those other cultures. It's something unique into itself.
Something new.
Unique.
Ah, unique. Je pense que la culture qui est sortie de tous ces éléments que j'avais pris est quelque chose de complètement unique, qui n'a rien à voir.
And since it's come alive, a lot of aspects of that culture have come not from outside sources, but from the natural progression of how I think things would go within the society I've already established.
Et comme du coup, elle a, cette culture a pris vie, en quelque sorte, elle n'a pas tant pris d'autres éléments d'autres cultures, mais elle a continué la progression naturelle qu'elle devait suivre.
I think it's important, one of the most important things about writing fiction, and I think fantasy in particular, is the ability to comment on our own society through a imaginary one.
Et je pense que l'une des choses les plus importantes dans la fantasy, dans l'écriture de la fantasy, c'est d'être capable de faire des commentaires sur notre propre société à travers une société imaginaire comme ça.
So there's a temptation when writing to have your imagination run wild and create very fantastical elements to your cultures.
Donc quand on écrit, on peut être tenté de laisser libre cours à votre imagination et de créer des éléments complètement fous dans une culture.
But if you want to speak to people about their own lives as well, you need to be careful to have it be something that they can relate to their own lives.
Mais si vous voulez vraiment parler aux gens, si vous voulez que les gens puissent s'identifier, il faut vraiment faire attention à ce que les éléments de la culture puissent leur parler et leur rappeler leur propre vie.
So it's a balance beam to walk, but so far I don't think I've fallen off.
Donc c'est une corde raide sur laquelle marcher, mais pour l'instant je pense que je suis tombée ni d'un côté ni de l'autre.
Et vous, Christine, vous parlez aussi du monde d'aujourd'hui, dans votre monde inventé?
Je pense en filigrane, oui. Par exemple, Kéral, qui veut pas de relation amoureuse, elle se méfie énormément des hommes, en fait. Elle fait pas confiance aux hommes en général. Alors elle n'est pas sexiste au sens strict, hein, mais elle évolue dans un milieu où elle sent bien qu'il y a toujours un enjeu. C'est jamais gratuit, c'est jamais. Donc elle veut bien des amitiés, elle veut bien. Mais par exemple, elle veut pas d'enfants puisqu'elle voit elle en vision les guerres, les morts, les machins. Donc elle a déjà dit bon, je vais pas laisser derrière moi un héritier de toute façon pour ça. Et elle est en méfiance quand même. Donc je pense qu'on est. Par exemple, les derniers événements politiques, les magouilles, les machins, je les sens bien. Donc, je ne peux pas faire abstraction. Et donc, je les retranscris là. C'est-à-dire qu'il y a l'homme politique qui présente bien, qui nous dit plein de choses, quel que soit le pays. Puis par derrière, il y a des enjeux. Il y a énormément de massacres qui se font dans un silence pas possible, où on se rend compte que tous, ils savaient bien un petit peu, mais on ne le dit pas. Et je crois vraiment ça, moi, que les grands massacres se décident à des hauts niveaux. Dans l'indifférence totale. Et ça, on peut pas y faire grand chose nous. Quand on le sait, c'est déjà un peu souvent trop tard. On a pas la culpabilité et on se dit mais qu'est-ce qu'on fait ? Puis bon, allez, on ferme la télé, on ferme, on pleure, on serre les tripes, on regarde nos gosses. On dit oui, bon, bah, j'espère qu'il pensera pas que j'y suis pour quelque chose. Et voilà, ça me travaille. Donc je pense qu'inconsciemment, je le glisse là. Elle est manipulée. Elle est dans une. Elle fait ce qu'elle peut. Et certains rouages même de cette société comme Jelram, il fait de son mieux, mais il est coincé aussi, il ne peut pas décider de ce qu'il veut. Et c'est ça, en fait, je pense. C'est une critique sans lettres, mais ouais, finalement, c'est comme, un peu comme chez nous. Quoi. C'est, voilà, hein.
Marianne, est-ce que vous avez des contacts avec des lecteurs qui lisent le manuscrit de Grenade de façon un peu politique par rapport à aujourd'hui ?
Oui, en parole. C'est-à-dire que les lettres que j'ai reçues ou sur Internet, etc., non, ils parlent de l'histoire, ils parlent des défis, ils sont emballés par les personnages, ils vivent plus ça. En revanche, ici, j'ai discuté avec quelques lecteurs qui sont venus parce qu'ils avaient lu le livre et m'ont apporté leur livre à signer. Et là, eux, en parlant, m'ont tout de suite fait comprendre qu'effectivement, ils avaient bien vu le rapport entre les guerres de religion que je projette dans le passé, alors que je parle de maintenant, etc. Voilà. En parole, ils le disent. Sur les forums, et quand ils m'écrivent une lettre, non. C'est plutôt des trucs de félicitations, j'ai aimé, ou voilà. Ils n'entrent pas. Mais quand je les ai face à face, oui, tout de suite.
Peter, on dit toujours que la fantasy est une littérature d'évasion et que c'est justement pour échapper à notre monde que l'on lit ça. Et pourtant, vous avez un rôle en tant qu'écrivain, puisque vous faites référence au monde d'aujourd'hui, un rôle quasiment social, politique, peut-être moral. Qu'en pensez-vous ?
I don't know that I agree that fantasy is escapism.
Je suis pas sûr d'être d'accord avec le fait que la fantasy soit une littérature d'évasion.
Some fantasy is, of course, and there were a lot of books that I read as a child that's exactly what that was. I was bored at school and I wanted to go on an adventure, and so.
Donc c'est le cas de certains livres de fantasy, bien sûr. Par exemple, les livres que je lisais quand j'étais jeune, quand j'étais petit, c'était ça. Je m'ennuyais à l'école, donc je voulais lire quelque chose à propos d'aventure. Je voulais m'évader.
But I think that the fantasy books that have stayed with us throughout the years, the ones that have held up over the test of time, like The Lord of the Rings or The Chronicles of Narnia or things like that.
Je pense que les livres de fantasy qui restent sur la durée, c'est ceux c'est ceux comme le Seigneur des Anneaux, les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis.
These sorts of books have made us think about our own lives and our own world in a different way.
Ce genre de livre nous a fait penser à nos propres vies dans un monde, dans notre propre monde, mais d'une façon différente.
And so, of course, I was inspired in many ways when writing the first book by September 11th.
Donc, bien sûr, de beaucoup de façons, quand j'écrivais le premier livre, j'ai été inspiré par le 11 septembre.
The kind of crushing fear that people in New York. I was in New York at the time. I had family in the Trade Center.
J'étais à New York à ce moment-là. J'avais de la famille dans le World Trade Center.
And so we all felt this kind of crushing fear every day, and it affected how people interacted with each other, how they interacted with their world, how they looked at politics.
Et donc nous avons ressenti cette peur écrasante tous les jours, ça affectait les relations, la façon dont les gens interagissaient les uns avec les autres, interagissaient avec le monde, voyaient la politique.
So the first book very much is about a Western style culture that is oppressed by fear and how that's affected the way they deal with each other.
Donc oui, le premier livre en fait c'est vraiment à propos d'une culture occidentale, de style occidental, qui doit affronter une peur écrasante et qui doit gérer cette peur. Et qui doit toujours, les personnes doivent toujours interagir les unes avec les autres avec cette peur écrasante.
So in some way both books have my commentary on the politics of the day, but there are no specific allegories between something that's going on now and what's happening in the books. Meaning I'm not taking a political side, I'm not trying to make a direct statement on today, I'm just trying to address the spirit of it.
Donc oui, certainement, il y a des éléments que l'on peut retrouver, des éléments d'aujourd'hui que l'on peut retrouver dans les deux livres, mais je n'essaie pas de faire une allégorie politique particulière dans mes deux livres. Je me place pas sur un plan politique en écrivant mes livres.
And what's been interesting to me is that in the responses from readers, I have people from both sides of the political spectrum reading the books and finding their own beliefs within.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que certains lecteurs des deux côtés du spectre politique m'ont écrit et m'ont dit qu'ils ont trouvé leurs propres croyances dans les deux livres.
And so, the interesting thing about reading is that no matter how many people read a book, it's different for every person that reads it.
Donc, ce qui est intéressant quand on lit un livre, c'est que peu importe le livre en lui-même, en fait, il sera toujours différent selon le lecteur qui le lit.
Because we bring our own experiences and beliefs to the book. And that helps us interpret what we read.
Parce que nous amenons nos propres expériences et nos propres croyances au livre, et ça nous aide à interpréter ce que nous lisons.
On va parler un peu du futur. Christine, après le roi d'ébène, vous restez dans le même univers?
Oui, je fais la suite.
La suite.
Ouais, la suite, ouais. Donc je ne peux pas trop en dire parce que voilà.
Non, mais ça sera une suite, il y en aura plusieurs. Vous avez de l'imagination pour faire une décalogie.
Moi je pourrais, mais bon, a priori, je pense, non. Ça serait un, voire deux. Allez, on va dire, si ce serait une trilogie, ce serait vraiment le grand maximum, quoi.
Et il y a d'autres époques, d'autres lieux qui vous incitent à écrire d'autres choses?
Oui, d'abord, j'avais commencé une trilogie qui était un peu celte. Alors, mon mari, avant de détester Ignou, a détesté aussi les Celtes. Donc, après, je trouverai autre chose. Hein. Si je veux que mon mariage dure, il faudra que je trouve autre chose. Mais oui, j'aime beaucoup les Celtes. C'est quelque chose où je me sens très proche. La chance, là encore, le hasard qu'on pourrait... un peu comme le buffle avec la termitière, c'est que moi j'habite un patelin qui s'appelle Dame Levière, et la patronne de Dame Levière s'est fait décapiter. Le mythe, c'est qu'elle s'est fait décapiter, avec les Romains faisaient ça souvent, et elle est une sainte parce qu'elle s'est promenée avec la tête sous le bras. C'est comme ça. Et chez les Celtes, c'est quelque chose de très très important, c'est une mythologie qui existe vraiment. Et il n'y a pas très longtemps, à Rosières-en-Bled, tout à côté, on a découvert des... comment on appelle ça ? Une nécropole très très rare, qui en Europe il n'y en a pratiquement pas, où on faisait la crémation. Donc il y a extrêmement peu de vestiges. Alors moi je suis complètement dedans, je suis voilà. Donc je pense que je remangerai du celt une fois que j'ai fini les gnous.
Passez-moi le celt. Voilà. Marianne, le coup de canon pour saluer les Celtes. Et Marianne, Grenade ou. Totalement autre chose.
Alors, le...
comme diraient les Monty Python.
Alors, j'aimerais, mais pas tout... J'aimerais faire la suite... Enfin, pas la suite du manuscrit de Grenade, mais explorer, puisque j'ai fait une uchronie, explorer les autres parties du monde qui entourent Grenade... parce que, par exemple, je me suis permis de faire remonter les Arabes dans toute l'Italie jusqu'à une ligne Venise-Gênes. Donc, il est évident que la merveilleuse civilisation de la Renaissance italienne est largement chamboulée, puisque les Arabes ont envahi toute la péninsule italienne. Et j'aimerais bien aller m'y promener. Mais avant, là, j'ai commencé un nouveau roman qui sera pour ados, qui est de la science-fiction post-cataclysmique. Qui est aussi un de mes thèmes, parce que les cataclysmes qui... voilà, est quelque chose qui me fait très très peur, donc il va falloir que je plonge pour vraiment essayer de me débarrasser de ces peurs. La meilleure façon, c'est d'y plonger et d'écrire là-dessus.
Et Peter Brett, il est en train d'écrire le troisième. Y en aura-t-il davantage, ou allez-vous vous plonger dans d'autres mondes plus tard?
The Demon Cycle is set to be 5 books.
Le cycle des démons devrait avoir 5 livres.
And so that will have a complete story and finish the tale of the characters within those books.
Donc ça fera une histoire complète, et je finirai de raconter l'histoire de mes personnages dans ces livres-là.
After that I'm contracted for one more book that will be set in the same world.
Après ça, j'ai signé un contrat pour écrire encore un autre livre qui se déroulerait dans le même monde.
That will take some of the background characters from the series and make them the main protagonists for one book.
Qui prendra certains des personnages secondaires de la série et qui fera d'eux les personnages principaux pour le livre à venir.
After that, je ne sais pas.
Après ça, je ne sais pas.
Non, mais il n'y a pas quelque chose qui, tout d'un coup, vous dit « Ah, ça, c'est un monde dans lequel j'aimerais bien explorer. »
I have a number of ideas for other stories that I'd like to do.
J'ai plusieurs idées pour certaines histoires que j'aimerais bien écrire.
Some set in the same world because the series that I'm doing now is set on a relatively small landmass, and I could certainly move to other places and explore entirely new cultures set in the same world.
Bon, sans doute, peut-être toujours dans le même monde, parce qu'en fait, là, l'histoire se déroule sur un continent assez, sur un espace assez restreint, donc je pourrais me déplacer vers d'autres parties du monde et explorer les cultures qui s'y trouvent.
But I also have ideas for other stories, but I try not to think about them too much, because if I get excited about those stories, then I will be less excited about what I'm working on now.
Et donc j'ai aussi des idées pour d'autres histoires, mais j'essaie de pas trop y penser, parce que si j'y pense trop, je vais être trop excité par ces nouvelles idées et je serai plus assez excité pour écrire la suite de cette histoire.
Et là, avec vos contrats, vous avez moins de liberté.
Well, I don't think of it as less free because I pushed very hard to get those contracts.
Je sais pas si je suis moins libre parce qu'en fait je me bats vraiment, je pousse pour avoir ces contrats-là.
This is the story that I want to be writing. This is, I mean, if I had complete liberty, I would still be doing this.
Ça, c'est vraiment l'histoire que je veux écrire, même si j'étais complètement libre sans aucun contrat, ce serait toujours cette histoire-là que j'écrirais.
And so when this project is complete and I feel like it's as good as I can make it, then I will focus on my next project.
Donc quand ce projet-là sera terminé, quand j'aurai l'impression de l'avoir bien fini, bien complété, alors je pourrai me concentrer sur autre chose.
Mais vous aurez toujours quelque chose à écrire sur ce monde-là, puisqu'il peut toujours y avoir des personnages qui émergent, des spin-offs, etc. C'est des histoires sans fin, en fin de compte.
I agree. I think that the setting for a series is less important than the characters themselves. It's the characters and how they interact with one another that tells the story.
Oui, je suis d'accord. J'ai l'impression que c'est pas tant l'univers qui fait l'intérêt du livre, c'est plutôt les personnages, la façon dont ils interagissent les uns avec les autres, c'est ça qui fait l'histoire.
We would never think that you could run out of stories to tell in our own world.
On penserait jamais qu'on pourrait être à court d'histoires à raconter dans notre propre monde.
So it's when you've spent years creating a world and building a magic system and belief systems and things like that, I think of that as a playground that I can now go and do all sorts of things in.
Donc quand vous avez passé des années à créer un monde avec un système de magie, avec un système culturel et politique, moi je vois ça après comme une grande cour de récré où ensuite je peux aller m'ébattre et créer des nouveaux personnages et m'amuser.
But what I'm not going to do is keep telling the same book over and over again.
Mais ce que je ne vais pas faire en revanche, c'est me contenter de répéter le même livre, de réécrire le même livre encore et encore et encore.
Although that has been the temptation that some other fantasy authors have fallen prey to.
Bien que certains auteurs de fantasy aient été la proie de cette tentation.
Et vous ne voulez pas être cette proie-là.
Non. Ah.
Vous, Christine et Marianne, vous n'écrivez pas, jusqu'à présent en tout cas, des histoires qui prennent 4, 5, 6 tomes, plus des spin-offs, etc. Votre imagination est trop limitée ou simplement vous voulez simplement vous restreindre?
Je veux conserver mon mariage? Non, sérieusement, non, c'est parce que moi j'ai commencé à écrire au départ parce que j'avais un petit garçon qui n'allait pas bien, qui était suicidaire à 6 ans, et que c'est très compliqué de parler à un petit garçon à cet âge-là. Donc j'avais décidé de lui écrire une petite histoire qu'il lirait quand il l'aura envie, si on lui posait de questions. Donc d'abord, j'ai découvert l'écriture plutôt pour sauver la peau de mon gamin, quoi. C'était pas quelque chose qui m'éclatait au sens strict, quoi. Et puis, heureusement, la psychologue qui s'en occupait était bien plus douée que moi, que je le suis en écriture. Elle a sauvé mon fils bien avant que je finisse mon roman. Mais j'avais commencé, j'ai voulu le terminer. Et à la fin, je me suis rendu compte, j'ai fait une petite trilogie, fameuse celle là, où je l'avais écrit pour moi, en fait. Je l'avais écrit pour la petite fille que j'avais été. Mais je m'en suis rendu compte qu'une fois que c'était terminé. Mais parce que l'écriture était devenue un plaisir, que j'étais plus dans l'urgence, que j'étais... Alors pour l'instant, j'écris toujours dans le plaisir. Et je pense que le jour où je n'aurais plus plaisir à me raconter des histoires comme quand j'étais petite, je pense que j'arrêterais. Je n'ai pas de vision à faire tel type. Je me fais plaisir. Pour l'instant, j'écris. J'ai une vie très riche à côté. Je passe ma vie en forêt. Je traque le petit triton alpestre et la grenouille, le crapaud sonneur à ventre jaune. Je suis terriblement désolée ce matin. J'ai oublié de mettre de l'eau dans la mangeoire aux oiseaux. Enfin, voilà, des choses comme ça dans mon jardin. Donc j'ai une vie très riche à côté de petites choses qui sont insignifiantes, qui n'intéressent personne, mais qui, moi, me nourrissent énormément. Donc j'ai des voilà le livre je l'ai écrit en passant ma tondeuse, en faisant ma vaisselle, en voilà. Je passe ma tondeuse et tiens, je sais pourquoi les chiens se sont couchés devant Kéral. Chouette. Voilà, c'est ça. Je fais mes courses à Leclerc, j'ai oublié le lait, j'y retourne et tiens, pourquoi le crocodile? Oui, bah voilà, maintenant je sais. Et ça je veux garder ça. Et après je deviens sérieuse et une maman respectable et j'écris à l'ordinateur et voilà et je fais une vraie histoire. Mais cette magie-là, je veux la garder. Je veux garder ce copain qui fait ses postes où je vois le buffle qui tombe sous la termitière. Voilà, ça, c'est ça qui m'intéresse. Et le jour où j'ai plus ça, j'arrêterai d'écrire. Mais bah, peut-être que j'aurai toujours ça. Il faut que je continue à passer ma tondeuse, je crois que c'est ça. Hein. Le secret, il est là.
Merci. Mais on va en rester là. Il est, bah oui, il est temps. Hein. Merci à Christine Cardot, à Marianne Lecomte et Peter Vibret. Les livres Le Roi d'Ébène chez Mnemos. Non, oui, Mnemos. Le manuscrit de Grenade chez Pygmalion et Le Temple du Dragon chez Mango. Et les trois Brett chez Bragelonne ou Milady, après tout, c'est la même chose. Ils sont en vente dans la bulle. Et je crois que cet après-midi, en tout cas, Peter Brett fait des autographes. Et les deux dames aussi. Merci de votre attention. Merci aux intervenants. Au revoir. Thank you.